Bonjour Laurent Bourdereau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du muséoparc Alésia, situé à Alice-Sainte-Reine, en Côte d'Or. On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle saison du muséoparc, dont l'ouverture s'est déroulée le week-end dernier. Tout s'est bien passé ?
Oui, très très bien. On est très content de pouvoir ouvrir. C'est la première année qu'on ouvre sur toutes les zones des vacances scolaires. Pour nous, c'est un petit challenge qu'on s'est donné pour accueillir les publics notamment les publics parisiens.
Oui, qui sont en vacances en ce moment. Avant de parler de 2024, j'aimerais revenir quelques instants sur 2023. Cette année-là, le muséoparc a accueilli 84 000 visiteurs, dont 12 000 scolaires. J'imagine que vous êtes fier d'avoir toujours cette place de choix pour les écoles, pour les centres, le jeune public, hein, tout simplement.
Oui, je crois que la vocation d'un musée, d'un établissement culturel, c'est aussi de travailler pour tous les publics. Et quand on dit tous les publics, il y a aussi le jeune public. Et les scolaires notamment, donc on a la chance d'avoir un service de médiation qui est très aguerri à l'accueil et à la conception d'outils et de séances pour les scolaires. Donc on a le plaisir d'accueillir pratiquement 12 000 scolaires par an, et ça fait énormément de choses. Alors on essaie aussi d'éviter les visites de fin d'année, même si on a plaisir à les accueillir durant leur visite d'été ou avant les vacances scolaires, les grandes vacances. L'idée, c'est aussi de les accueillir tout au long de l'année et de pouvoir les accueillir sur plusieurs séquences. Donc, c'est ce qu'on développe aujourd'hui, la fidélisation de ces jeunes publics avec leurs enseignants. Ça, c'est très important.
Et qu'est-ce qui retient le plus l'attention du jeune public ? Est-ce que c'est l'histoire des Gaulois, de César, Vercingétorix ? Qu'est-ce qui les intéresse le plus ?
Alors, c'est vrai qu'on a un sujet qui est assez porteur, hein, que ce soit évidemment la bataille d'Alésia. On essaie d'ouvrir aussi sur les collections, parce que n'oublions pas qu'ensuite, il y a une véritable découverte de la civilisation gallo-romaine, en plus des Gaulois. Et puis, je crois que l'idée de porter une thématique chaque année est plutôt positive et crée un peu de la dynamique auprès de ces jeunes. Là, on a beaucoup, beaucoup de demandes sur l'année olympique.
On va en parler,
mais voilà, ça, on est le 14 février et on est déjà quasiment complet pour l'année.
D'accord.
En termes de créneaux de réservation, donc c'est assez exceptionnel.
Vous le disiez, l'année 2024 sera marquée par le passage de la flamme olympique au muséoparc. Ce sera le vendredi 12 juillet à 12h48, très précisément. J'ai cru comprendre, vous l'avez dit lors d'une conférence de presse, qu'un flash mob sera organisé, c'est ça ?
Oui, l'idée de recevoir la flamme, alors c'était assez exceptionnel hein, pour nous, puisque cette flamme, elle va aussi parcourir des lieux iconiques, que ce soit le château du Clos Vougeot, le muséoparc Alésia.
Bien sûr.
Et pour le muséoparc Alésia, l'équipe souhaitait mettre en place un projet collaboratif avec les habitants. C'est dit que ce serait dommage de voir passer cette flamme sans avoir des sportifs, des danseurs, Et donc on a eu l'idée de cette chorégraphie avec ce chorégraphe, donc ce danseur contemporain qui est Hervé Koubi, qui est une danse assez humaniste, qui crée beaucoup de choses autour des humanités, en tout cas des civilisations. Et il nous semblait que c'était un joli signe de faire appel à ce chorégraphe pour créer aujourd'hui, les plus jeunes diraient flash mob. Et là, on est donc sur une danse à la flamme. On va essayer de faire une ode à la flamme. Et donc, on va associer, on espère, un peu plus d'une centaine de bénévoles, amateurs de danse, amateurs de sport, mélanger tout ce petit monde, des jeunes et des moins jeunes, pour faire cette danse lors du passage de la flamme. Donc ça devrait être assez intéressant.
Comment ça s'est passé finalement, l'organisation ? Comment ça s'est fait, le passage de la flamme au muséoparc ?
C'est à l'initiative du conseil départemental, hein, à l'initiative notamment du président Sauvadet, président des départements de France, qui a aussi beaucoup œuvré pour que cette flamme, elle traverse l'ensemble des départements de France et notamment le département de la Côte d'Or. Je crois qu'on a une grande chance de pouvoir à la fois valoriser les villes, passage de la flamme, et puis ces lieux iconiques, historiques, patrimoniaux, puisque là aussi un des axes majeurs de ces Olympiades en France, c'est le rapprochement entre sport et culture, puisque je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais on a un label en France à l'occasion de ces Jeux Paris 2024, Olympiade culturelle, donc qui atteste le fait que des lieux puissent faire une programmation qui rencontre et qui tisse des liens entre sport et culture. Et donc, on est assez content puisque on a pratiquement près d'une dizaine de notre programmation, hein, de nos activités de programmation qui ont été labellisées Olympiade culturelle via le ministère de la Culture et le COJO. Et donc, tout ça fait un tour qui est extrêmement motivant pour nous.
Oui, j'imagine. Un autre événement, le reste de l'année, hein, sera lui aussi axé sur le thème des Jeux Olympiques, à l'image de l'exposition des Jeux pour des Dieux, dont l'ouverture est prévue pour le 23 mars prochain. Elle va ressembler à quoi, cette exposition ?
Alors, l'idée, là aussi, c'était de se dire, de faire un pas de côté, mais rester sur un axe historique et oui. De présenter Olympie, l'histoire de ces Jeux antiques. Il y a beaucoup de lieux qui vont présenter l'histoire des jeux ou en tout cas les jeux modernes et on trouvait intéressant à Alésia de faire une trêve, hein, puisque vous savez que les Jeux Olympiques c'est aussi une trêve de bataille, de guerre pendant ces Jeux Olympiques. Donc peut-être que sur le site de la bataille d'Alésia de faire une trêve olympique, ça nous semble être un joli symbole et de parcourir, de développer un sujet autour des jeux antiques. Alors une exposition qui va être assez atypique. Oui. Je voudrais pas en dévoiler toutes les surprises maintenant, mais
une petite chose,
une mise en scène, un peu innovante, puisque il est pas impossible qu'on y retrouve un stade,
d'accord,
un stade olympique à l'intérieur du musée au parc, et on souhaitait avoir la même résonance que ce qu'on peut trouver à Alésia entre ce bâtiment très contemporain de Tchoumi, ce muséoparc très contemporain et qui parle pour autant du site d'Alésia, et on voulait retrouver à peu près les mêmes ponts entre une muséographie un peu contemporaine, quelque chose du graphisme qui sera un peu étonnant, à la fois sur les supports de présentation et au sol. Il y aura quelques surprises, mais là j'en dirai pas plus. Et donc une ambiance très familiale, on voulait aussi que cette exposition, les enfants puissent y trouver leur compte. Il y a aussi des manipulations pour les enfants et qu'elles permettent une découverte historique et très ludique. Un peu, il y aura du son, il y aura un peu d'image, il y aura pas mal de choses. La grande chance aussi, c'est d'ailleurs je remercie à la fois le Musée Olympique de Lausanne qui nous soutient dans cette démarche puisque il nous prête pas mal d'objets, notamment des médailles, et puis le musée des antiquités de Rouen qui nous a aussi prêté des objets, et puis on a fait fabriquer des facsimilés, donc on aura un disco ball au musée au parc avec les ateliers du Louvre. Donc plein de partenaires très très enrichissants.
Voilà, si ça c'est pas du teasing, certains collèges de Côte d'Or vont aussi participer, s'approprier un thème de cette exposition. Ce sera le cas du collège Saint-Joseph, du collège Carnot à Dijon, de même pour le collège Marcel Aimé à Marcenais-la-Côte. Ça consiste en quoi cette appropriation ?
Cette appropriation de l'exposition, elle devait se faire à la fois dans nos murs, évidemment, en recevant des collégiens et des primaires, des plus petits. Mais ces collégiens, on avait envie d'aller les chercher et on avait envie d'aller un peu dans les collèges, de sortir de nos murs, sortir un peu de notre zone de confort de ce musée au parc et d'aller à la rencontre des collégiens et de les rendre acteurs de leur propre exposition.
D'accord.
Donc là, il s'agissait de leur proposer, et ce qu'ils vont faire, hein, 6 collèges, pratiquement plus de 220 collégiens impliqués dans le dispositif.
Dans le département, hein, 6 collèges.
Dans le département. Dans tout le département, parce qu'on a été vigilants aussi de respecter un peu la géographie du département. Et donc, chaque collège va organiser sa micro-exposition des Jeux antiques. Les élèves choisissent une thématique qu'ils souhaitent développer, liée aux Jeux antiques, et vont proposer à leurs camarades une micro-exposition dans chaque collège, avec un vernissage, avec une étape de médiation auprès des parents, auprès des autres élèves. Et puis toutes ces micro-expositions, ces 6 mini-expositions, on va les retrouver rassemblées à Dijon au mois de juin, au collège Carnot.
D'accord.
Où là, aussi d'autres camarades, hein, et d'autres écoles vont pouvoir découvrir cette grande installation d'exposition. Et puis on retrouvera l'invitation du président Sauvadet à un autre temps de présentation de l'ensemble du projet, tous les élèves, tous les parents, tous les acteurs liés au projet, notamment l'inspection académique. Voilà, je salue d'ailleurs, je fais un petit coucou à Cécile Schmitt, qui nous accompagne dans la démarche. Et donc, on retrouvera tous ces acteurs mi-juin, justement, pour faire un clin d'œil avant l'arrivée de la flamme au mois de juillet. Oui.
On parle de la jeunesse. Les vacances scolaires, c'est dans quelques jours pour la Côte d'Or, du moins pour l'Académie de Dijon. La zone C, on le disait, de Paris, quant à elle, est déjà en vacances. Qu'est-ce qui est prévu tout au long de l'année pendant ces vacances scolaires ?
Alors, beaucoup d'ateliers, beaucoup de visites, ce qu'on appelle, nous, des petites mini-visites de 15 minutes, un quart d'heure. Le principe au musée au parc, c'est que les familles avec les enfants puissent, en quelque sorte, picorer tout au long de la journée des activités. Oui. Et donc, le service des publics prend beaucoup de soin à élaborer un programme qui puisse à la fois permettre de faire des ateliers. Donc là, pour le mois de février, vacances gauloises avec... la décoration de boucliers, des cartes postales à la mode gauloise gravées. Il y a beaucoup de choses. Du cinéma, on a la chance d'avoir...
Cet été, effectivement.
Alors, même pendant les vacances,
d'accord,
bien avant l'été,
okay,
il y aura aussi des petites surprises dans l'auditorium du musée au parc avec du film d'animation. On va proposer donc ces petites visites guidées. Il y aura un livret pédagogique, un livret jeu pour découvrir aussi, à partir de l'ouverture de l'exposition, donc on sera aux alentours du 22-23 mars,
oui,
un livret jeu pour découvrir l'exposition, donc plein de petites activités comme ça. Donc il y en aura forcément pour tout le monde, forcément pour la famille, et puis on espère aussi qu'il reste un peu déjeuner chez nous. Là je fais un peu teasing aussi pour le restaurant, le Carnix, puisqu'avec le chef Benoît Bécard, donc il y a une vraie proposition d'une cuisine de terroir, et pour là aussi,
qu'est-ce qu'on peut retrouver alors comme cuisine
alors,
de terroir?
J'annonce déjà qu'on va obtenir le label 100% savoir-faire Côte d'Or,
oui,
qui va être décerné au mois de mars par le président Sauvadet et la commission. Donc, on est très heureux de pouvoir valoriser cette démarche-là de circuit court. Et puis, des plats qui vont aller du bœuf bourguignon un peu revisité. Encore une fois, une cuisine, on a à cœur de pouvoir accueillir les visiteurs avec une cuisine faite maison.
Oui.
Voilà, on est un peu chez soi et il faut qu'on passe un bon moment.
De produits du terroir avec aussi, j'imagine, des plats pour les enfants peut-être un peu plus adaptés.
Exactement, des plats pour les enfants, des plats de saison, voilà, des choses un peu surprenantes et surtout des plats du jour. Encore une fois, ce restaurant, ça doit être aussi un lieu de convivialité et ça contribue à avoir un bon parcours de visite et ressortir de chez nous à la fin de la journée en ayant passé une très bonne journée.
Peut-être une petite parenthèse, je me permets cette question. Selon vous, qu'est-ce qui fait la renommée d'Alésia finalement dans toute la France, même à l'étranger? C'est vrai que le musée au parc Alésia, on en entend parler partout finalement.
Alors j'espère bien.
Vous n'allez pas me dire le contraire.
J'espère que le musée au parc Alésia a la résonance un peu dans toute la France. Je pense qu'il fait la recette un peu du succès, c'est évidemment, on est lié à un fait historique incontournable, la bataille d'Alésia, l'histoire des Gaulois, mais comme Bibracte ou comme Gergovie, comme plein d'autres sites. On essaie aussi d'avoir une vraie proposition d'approche pour les familles, d'avoir une proposition ludique, une proposition conviviale. Et puis, je pense qu'on essaie aussi de créer un peu de l'attractivité par les activités. Je crois que la recette, c'est de se renouveler chaque année, de faire des propositions un peu innovantes, notamment cette année, vous voyez, sur l'année olympique.
Oui.
On a fait un pas de côté, mais on est assez fiers de ça, avec ce week-end trampoline, la compagnie Hors Surface, et qui va faire un stage pour les visiteurs.
Ce sera quand ce week-end?
Alors là, on est du 8 au 12 mai de... J'espère ne pas me tromper, mais je pense que je ne me trompe pas.
On ira vérifier dans le dossier de presse.
Et puis surtout sur le site internet pour les auditeurs.
Pour les auditeurs, tout à fait.
Et puis, on aura par exemple au mois de mai, pour la nuit des musées, une très belle installation de feu. Voilà, avec aussi là d'autres partenaires. Et on est aussi ravis de pouvoir proposer tout au long de la saison des temps forts comme ça pour le grand public.
Si on voit un petit peu plus loin aussi, il y a le mois de septembre avec les journées du patrimoine, ce sera les 21 et 22. Là encore, c'est le sport qui sera mis à l'honneur.
On est en plein dans les Jeux. On aura ouvert l'exposition au mois de mars. On aura fait des stages de trampoline. On aura fait de l'initiation aussi au sport antique, puisqu'on a toute une proposition qui s'appelle En Piste. Et Ben, quoi de plus naturel que de recréer des Jeux Olympiques avec l'ensemble des fédérations, des clubs sportifs du territoire qui sont impliqués. Je pense à l'Office municipal des sports de Vénard-et-les-Laumes que je salue. Et qui vont organiser un grand rassemblement sportif. On aura déjà eu prémisse de ce rassemblement au mois de juin, cette fois-ci avec l'UNSS et les scolaires. Donc, on aura eu un grand rassemblement avec les scolaires. Et puis, au mois de, pour les journées du patrimoine, un grand rassemblement avec les clubs sportifs. Et avec aussi là, la reprise d'une activité qui avait historiquement qui était basée à Alésia, le Trail Alésia. Oui. Qu'on va reprendre et qu'on va relancer à cette occasion-là.
Un mot également des fouilles qui sont toujours en cours hein, à Lys-Saint-Rennes. En 2024, l'équipe envisage de les étendre vers le sud, en direction de la Porte Monumentale. Ça aussi, c'est un attrait très fort, hein, le côté fouille pour le jeune public, même pour tous les publics.
Oui, c'est, on a aussi, pour nous, c'est extrêmement important à chaque fois de porter la partie scientifique, de la valoriser auprès du public, les chercheurs, la recherche et l'archéologie. Et donc je salue là l'archéologue hein, puisque en fait on a le conseil départemental pousse et soutient avec le ministère de la culture ce qu'on appelle des fouilles programmées.
D'accord.
C'est un peu atypique en France quoi. On est, ça existe mais il faut le valoriser, il faut savoir aussi le dire et le défendre et donc ces collectivités le défendent et donc un partenariat avec le laboratoire universitaire Arteis. Donc je salue voilà Sabine, Fabienne Creusenet. Et l'archéologue qui porte ce programme, Mathieu Ribollet. Et donc, on compte bien, effectivement, tout faire pour le valoriser auprès des publics. Là aussi, il y a une vraie démarche de médiation qui va se mettre en route pour présenter à la fois le métier d'archéologue, la démarche de recherche, et puis, on espère, les très belles trouvailles.
Ça crée des vocations, vous pensez, d'archéologue ?
J'espère, j'espère que... On peut valoriser, souvent c'est des métiers qui sont un peu abstraits
oui. hein,
dans l'esprit des plus jeunes. Voilà, comment devient-on archéologue
hein,
on n'est pas tous Indiana Jones. et il faut à un moment donné pouvoir aussi valoriser ces métiers pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire un métier de passion, de recherche, de patience. Beaucoup d'études et de voilà, c'est aussi beaucoup de recherche. Donc il faut savoir porter ça.
Un mot également d'éco-responsabilité. Vous dites vouloir faire évoluer les pratiques du musée au parc afin de réduire l'impact écologique de vos employés. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ?
Alors l'impact écologique pour un établissement culturel de plus en est très important. De plus en plus d'établissements culturels liés au coût de l'énergie, liés aussi à une démarche d'accueil du public, une démarche aussi pédagogique. On se doit d'aller dans ce chemin du développement durable, du tourisme durable. Il y a beaucoup de collectivités hein, qui portent aussi ces actions-là. Et donc, au musée au parc, on a effectivement développé dans notre projet d'établissement tout un pan autour du développement durable, RSE. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que on récupère l'eau de pluie. On a doublé notre capacité de récupération d'eau de pluie pour arroser les arbres. On vient de hier encore, on est allé chercher des vélos reconditionnés de la Poste, des vélos électriques.
Okay.
Et donc l'équipe va utiliser ces vélos électriques pour se rendre d'un site à un autre, donc des vestiges gallo-romains.
Ça monte hein, un petit peu.
Ça monte un peu, mais en électrique avec la bonne vitesse, on devrait y arriver. On a décarboné le parc automobile. Voilà, je suis venu ce matin chez vous dans vos studios en voiture électrique. On est très attentif à la température, donc on a tout fait pour installer des stores pour réduire aussi la consommation en air conditionné. Le restaurant fait aussi du compost, donc on valorise aussi les déchets alimentaires. Mmh. Voilà, plein d'actions comme ça qui j'espère va faire école. En tout cas, on aimerait obtenir des labellisations et poursuivre la démarche. Un peu plus avant, sur demain, l'éco-responsabilité autour de la conception d'expositions. Voilà, là, par exemple, on a un partenaire, Gerflore, on va construire une petite piste d'athlétisme. Je vous donne un
D'accord.
autre scoop au musée au parc. Donc, il y a une partie du dispositif qui va être donnée à une école du territoire et une autre partie qui va être valorisée puisque c'est des produits qui sont recyclables. Donc, on est attentif dans toutes les étapes de la vie d'un établissement culturel à faire valoir la démarche environnementale.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Laurent Bourdereau, un autre événement dans l'année que vous attendez?
Alors déjà, dire que je suis fier de cette programmation, que je suis fier que l'équipe ait pu travailler sur l'ensemble de ces propositions. Je pense que on a hâte d'accueillir les visiteurs et de pouvoir partager. Quand vous imaginez un événement, vous avez toujours vous avez toujours envie de le partager avec le plus grand nombre. Je pense que on attend avec impatience quand même, et on est assez fiers de ce programme autour de la flamme. Évidemment, le passage, ça va être un grand moment. La nuit des musées avec cette installation de feu qui, j'espère, va devenir une tradition au Musée au Parc Alésia. Voilà, tous les ans, une installation de feu. Et puis, très fier de vous dire qu'on travaille déjà sur l'année 2025. Parce que il faut pas s'endormir.
Là, c'est peut-être un peu trop tôt pour avoir un scoop, j'imagine, pour 2025.
Non, alors juste le scoop, c'est qu'en 2025, on travaillera de nouveau sur la collection d'Alésia, et on va travailler sur les dieux et divinités de la collection d'Alésia, mais là aussi, d'une façon un peu originale.
Voilà, donc rendez-vous en 2024 tout d'abord, et puis après en 2025. Merci beaucoup Laurent Bourdereau d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, la saison 2024 du Musée au Parc Alésia a débuté avec plein de belles choses à voir et à découvrir. Merci beaucoup.
Merci à vous.